Notre Père, Seigneur, notre Père céleste, merci d'être avec nous ce matin. Merci d'être avec tous nos bien-aimés qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. Tu vois leur déplacement ou d'autres raisons. Merci d'être avec eux. Merci pour le nombre que nous sommes et réjouis nos cœurs de ta présence et fais que ce message, Seigneur, parle à nos cœurs, à nos intelligences, mais aussi à notre volonté de t'aimer, de demeurer en toi, de te servir, d'être proche de toi. Merci pour tout ce qui a été dit ce matin. Merci pour nos prières qui montent vers toi en action de grâce, car tu es un Dieu qui écoute et exauce la prière, mais aussi prend plaisir à nos louanges de reconnaissance. Merci Seigneur de ta bonté. Merci de cacher nos cœurs en Christ ce matin, de te glorifier afin que toi seul sois vu et reconnu comme vrai. Merci Seigneur pour ta présence. Glorifie ton nom ce matin, au nom de Jésus. Et renouvelle les forces des uns et des autres, Seigneur, afin que nos cœurs soient bien attentifs à ton message, le message de ta parole. Amen. Le sujet de ce matin, c'est Christ, le centre de l'Église. Vous allez me dire, mais c'est assez évident que Christ devait être le centre de l'Église. Et j'ai choisi comme texte de base ce texte très connu en Matthieu 16, 18, qui dit « Et moi, je te dis que tu es pierre, que sur cette pierre, roc, Jésus faisait un jeu de mots là dans le grec, qui n'apparaît pas dans le français, tu es pierre, pétros, une petite pierre, et sur cette pierre, qui est un roc, c'est moi-même, Jésus qui parle, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévendront point contre elle. » Dans ce verset ici, il est bien souligné que c'est Jésus qui bâtit son église. Je, c'est une personne, ce n'est pas une institution, ce n'est pas un temple, ce n'est pas un bâtiment, c'est une personne qui bâtit son église, c'est-à-dire que c'est pas la nôtre, c'est pas la vôtre, c'est pas la mienne, c'est son église, c'est lui qui l'a bâtie et elle lui appartient. Et en plus, il la protège, les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle, il lui accorde une protection, une puissance particulière, parce que c'est celui qui est le créateur et à la fois le concepteur et le bâtisseur de son Église. J'ai pensé que ce serait bon ce matin ensemble que nous puissions regarder un petit peu quelques aspects de la vie de l'Église ayant pour centre le Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie, certainement, de voir le zèle et le désir de nous tous, je suppose, de voir notre Église grandir et porter du fruit, et du fruit qui demeure. Mais le devenir de cette Église, elle est liée au fait que chacun de nous, nous restions attachés à celui qui est le concepteur, le créateur et le bâtisseur de son Église. Et pour ça, dans le Nouveau Testament, il y a 5 images qui montrent la relation de Jésus avec son Église. Et ce matin, je me propose qu'on regarde ensemble ces 5 images que l'on trouve dans le Nouveau Testament et qui montrent que Jésus est vraiment au centre de l'Église. Alors, la première image, c'est que l'Église est un troupeau. La deuxième image, c'est que l'Église est comparée à une vigne. L'Église est comparée à un édifice, l'Église est comparée encore à une épouse. Et j'espère que nous aurons le temps ce matin de regarder cela ensemble. En fait, tout d'abord, l'Église est un troupeau. Cela veut dire que Jésus est le berger. Nous sommes des brebis. Nous savons que le Nouveau Testament, autant l'Ancien Testament, a choisi de décrire les croyants comme des brebis, les animaux les plus fragiles et parfois même les plus, entre guillemets, excusez, stupides qui existent sur la terre, qui ont constamment besoin d'un berger, de quelqu'un qui les nourrit, qui en prend soin, qui les dirige au bon endroit, parce qu'elles peuvent être assujetties à toutes sortes de maladresses venant de leur part et aussi les attaques de prédateurs. Et Jésus, il est écrit en Jean chapitre 10 qu'il est le bon berger. Qui ne connaît pas cette expression « Jésus est le bon berger ». Mais j'aimerais souligner avec vous, si on regarde à partir du verset 4, la Bible dit tout d'abord, à propos de Jésus le berger, « Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Jésus se révèle à ses brebis, les brebis le suivent et il marche devant elles. C'est-à-dire que c'est lui qui dirige les brebis et oriente le chemin de ses enfants. La Bible dit aussi au verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Le Seigneur Jésus a promis en tant que berger de donner la vie en abondance. Il s'agit ici évidemment de la vie spirituelle que lui-même communique comme, n'est-ce pas, un canal dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous bénit, qui nous enrichit de sa présence et de tous ses bienfaits spirituels, car nous avons tout pleinement Jésus-Christ et nous sommes bénis dans les lieux célestes en Christ. Au verset 11, il est écrit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Cela montre que Jésus nous aime. Jésus, le bon berger, est celui qui nous aime, qui prend soin de nous et aussi qui nous protège. C'est merveilleux cela. S'il y a bien une attaque de l'adversaire dans nos vies, c'est de essayer de nous faire croire que Jésus ne nous aime pas. Mais Dieu nous aime, et en Jésus-Christ, il l'a prouvé, il prouve son amour, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, et le même amour qui l'a poussé à donner son Fils Jésus-Christ, et le même amour qui le pousse encore à nous aimer. Une fois qu'on a accepté Jésus, malgré nos faiblesses, nos manquements, Jésus nous aime, et son amour est éternel, il prend soin de nous, parce qu'il nous aime d'un amour éternel et inconditionnel. Au verset 14, il est écrit « Je connais mes brebis et elles me connaissent ». Il connaît ses brebis. J'aime bien prêcher, vous savez, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et je pense qu'il faut presque diviser maintenant le message en deux, parce que rien que le mot « Éternel », Yahweh, avec la notion du temps, Jésus connaît notre passé, il connaît notre présent, il connaît notre avenir, il connaissait nos besoins passés, il a pourvu, il connaît nos besoins présents, il est prêt à pourvoir, il connaîtra et il sait déjà nos besoins futurs et il est prêt à pourvoir nos besoins. Parce qu'il est l'Éternel, le berger au-dessus du temps, qui connaît nos cœurs, qui connaît nos passés, notre présent et notre avenir. Jésus prend soin de ses brebis parce qu'il les connaît. Il les connaît jusqu'au nombre de nos cheveux sur la tête, il les connaît exactement dans ce qu'elles sont. Et puis finalement, le fameux passage au verset 28 qui dit ceci, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main, même pas nous-mêmes. » Une fois qu'on est en Christ, on est scellé du Saint-Esprit, on reçoit la vie éternelle, c'est la vie pour toujours et personne ne peut nous ravir de la main du Père et de la main du Fils. Et on croit que la main du Père et la main du Fils ensemble sont toutes puissantes pour nous garder. En fait, Jésus est le bon berger. Déjà dans l'Ancien Testament, Jésus, Dieu le Père, excusez, Dieu, le Père d'Israël, était considéré comme le berger. Et se voyait et se décrivait et se proclamait le berger d'Israël. Il est écrit en Ésaïe 40, verset 11, « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. » Et dans la parabole du chapitre 15 de Luc, il dit que lorsque une brebis est berue et perdue, le berger laisse les 99 autres pour aller chercher celle qui était perdue. Dans l'Épître aux Hébreux, Jésus est appelé le grand pasteur des brebis pour montrer son ministère spirituel auprès de ses enfants. Il est écrit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Jésus est devenu notre pasteur. Dans la mesure où chacun de nous, nous restons attachés au Seigneur Jésus comme le berger, comme le pasteur de cette église, alors nous marchons avec lui comme dans un troupeau uni, nourri et protégé par le Seigneur. Le Seigneur est le bon berger, il est le grand pasteur des brebis. Notre responsabilité, c'est de nous attacher au pasteur par excellence, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le bon berger. Il est appelé le souverain pasteur, et la Bible dit en 1 Pierre 5,4, il paraîtra et vous obtiendrez ainsi la couronne incorruptible de la gloire. Mais avant, en tant que souverain pasteur et grand pasteur des brebis, il est celui qui nous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Non seulement nous ne pouvons pas savoir la volonté de Dieu, la connaître, mais nous n'avons pas la capacité de la faire. C'est dans la mesure où Dieu nous donne cette capacité, parce qu'il est le bon berger, il est le souverain pasteur, celui qui nous dirige, qui va nous donner cette capacité d'accomplir sa volonté. Nous sommes donc dépendants du berger. Nous sommes dépendants de ses soins et la seule façon d'être protégé, d'être gardé face à l'adversaire, à notre propre chair et au monde, c'est de nous tenir, blottir comme l'apôtre Jean sur le sein de Jésus, comme une brebis qui a absolument besoin de son berger. Et chaque fois que nous nous égarons, que nous nous éloignons du giron de la protection de Jésus le berger, eh bien nous sommes en difficulté. Jésus est le bon berger, il ne désire qu'une chose, prendre soin de nous. Êtes-vous ce matin conduit par le bon berger? Êtes-vous attaché au bon berger? La Bible dit ceci, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Le gardien de vos âmes. C'est vrai qu'on a du mal à se garder soi-même et Jésus nous garde. Et c'est pour ça que nul ne peut nous ravir de sa main, parce que c'est Jésus qui nous place dans cette sécurité éternelle, parce qu'il est le bon berger, qu'il a donné sa vie et que son sang nous purifie et que nous avons été rachetés à un grand prix par le sang de Jésus qui s'est offert lui-même par un esprit éternel. Jésus est le véritable berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous pouvons toujours être au bénéfice constant de son amour, grâce, pardon, miséricorde. Le Seigneur est immuable, il est éternel, il ne change pas. Ce serait terrible de penser que notre berger, selon ses humeurs, prend soin plus ou moins bien de ses brebis. Mais l'humeur de Jésus ne change jamais parce qu'il est basé sur un esprit constant d'amour, de grâce, de pardon. Et nous pouvons toujours, nous qui sommes si faibles, aller nous réfugier auprès du bon berger. Est-ce que Jésus est votre berger ce matin? Jésus désire l'être. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus accorde le repos du cœur, le repos de l'âme, à celui qui se confie en lui d'abord pour son salut et ensuite pour sa marche quotidienne. Jésus est le bon berger, nous sommes le troupeau. Une autre image que l'on trouve dans le Nouveau Testament, elle n'est pas directement dite en disant, illustrée en disant que l'Église est la vigne du Seigneur, mais Jésus a dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Ici, il dit qu'il est le vrai cep parce qu'il veut que les Juifs, il est en train de parler à ses disciples, il est sur le jardin qui va l'amener, le chemin qui va l'amener à Gethsémané, il est en train de leur dire que maintenant, il faut qu'ils s'attachent à la vraie alliance qui est Jésus, le vrai cep. Il faut qu'ils quittent l'ancienne alliance et les rites et les traditions pour s'attacher au vrai cep. Et le Père en est le vigneron. Nous sommes devenus la vigne parce que nous sommes devenus les sarments, et les sarments restent attachés au cep pour porter du fruit, et la sève coule, symbole du Saint-Esprit, du cep vers les sarments. Nous ne pouvons pas fabriquer la vie chrétienne, c'est dans la mesure où nous sommes attachés au Seigneur Jésus que la sève coule et que nous sommes purifiés et remplis du Saint-Esprit. En fait, le cep est dépendant du vigneron, et si le cep est dépendant du vigneron, à combien plus forte raison nous, les sarments, devons-nous rester attachés et nous sommes dépendants du cep. Le vrai sarment est le vrai croyant, et le faux sarment est le croyant de non. Le vrai sarment porte du fruit, reste attaché au cep et dépend du cep. C'est pour ça que dans Jean chapitre 15, le croyant véritable demeure en Christ, et cela veut dire, et je vous lis en résumé ce que j'ai noté dans ma Bible et même surligné, premièrement, il dépend totalement de lui, verset 5. Deuxièmement, il garde sa parole. Une marque d'un vrai croyant, d'un vrai disciple de Jésus-Christ, c'est de garder sa parole. « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi », nous disait le psalmiste dans le psaume 119. Il demande et reçoit. Le vrai croyant est exaucé. C'est une joie d'avoir ses prières exaucées. Parce que Jésus est le cep et nous sommes les sarments complètement dépendants de lui. Mais Dieu nous inspire dans nos prières afin d'être exaucés. Il glorifie le vrai croyant, Dieu le Père. Il est un vrai disciple. Il demeure dans son amour. Il garde ses commandements. Il est dans la joie parfaite et il porte du fruit. Et on voit la progression dans Jean chapitre 15. Il porte du fruit. Il porte encore plus de fruits et il porte beaucoup de fruits. Et c'est le signe d'un vrai disciple. Alors, la véritable église de Jésus-Christ est une église qui porte du fruit. C'est une vigne dont le fruit est abondant et un fruit qui demeure. Allez, Il est dit que nous allions et que nous portions du fruit et que ce fruit demeure. Et c'est le fruit que le Seigneur porte lui-même au travers de son Église. La vigne du Seigneur est féconde, elle est composée de tous ceux qui sont en Christ et qui demeurent en lui. Il y a d'autant plus de fruits qu'il y a d'autant plus de sarments, il y a d'autant plus de fruits que le croyant porte individuellement du fruit. Mais Dieu veut que son Église porte du fruit. Quel genre de fruits devrions-nous porter ? Certainement le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bénité, la maîtrise de soi, la patience, mais aussi tout le fruit de la repentance, le fruit de la sanctification et le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Il y a plusieurs fruits mentionnés dans le Nouveau Testament. Cela est possible parce que Jésus est le cep. Jésus est le bon berger et Jésus est le cep. Jésus est au sein de son Église parce qu'il est le bon berger, nous sommes le troupeau. Jésus est au sein de l'Église parce qu'il est le cep et nous sommes les sarments. La troisième image que l'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est l'image d'un édifice. Jésus-Christ dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est quelque chose qui nous échappe complètement. Nous ne réalisons pleinement cela que lorsque nous nous donnons complètement au Seigneur. C'est Jésus qui bâtit son Église et son Église est un édifice. Mais tout dépend de la façon avec laquelle on bâtit. Et Dieu dit que Jésus est la pierre angulaire. Ce n'est pas la clé de voûte, n'est-ce pas, sur laquelle s'appuie la voûte. Dans cette force, n'est-ce pas, qui permet de faire un linteau. Mais c'est la pierre angulaire qui était posée au départ d'un édifice, d'une fondation, pour donner la direction et l'implantation exacte de l'Église et la direction exacte que Dieu allait donner, que l'édifice allait prendre. Alors on pose la pierre, on fait éventuellement un angle droit, et tout repose, le bâtiment, à partir de son point géométrique. En quelque sorte, les disciples sont aussi les fondements parce qu'ils représentent la première génération, les apôtres, la première génération de consolidation, de pierres vivantes qui s'édifient et qui ont organisé l'Église. Mais la Bible dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante. Nous sommes un édifice, nous sommes des pierres vivantes, rejetées par les hommes, mais choisies et précieuses devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Cela veut dire que chaque pierre a une place bien précise. À un moment donné, lorsqu'on fait un édifice, on monte avec des pierres ou des briques, mais chaque pierre, quelque part, doit être placée à un endroit et permet à la consolidation de l'édifice. Chaque pierre a une fonction bien précise. Vous savez, on a créé ce mur ici, c'était des vitres de 3,20 m de hauteur. Et c'est vrai qu'on a eu plaisir à essayer, pour certains, à jouer les apprentis maçons, pour d'autres qui nous redressaient, qui connaissaient un peu plus le métier. Mais nous avons monté tous ces murs ici. Alors vous allez dire, si j'enlève une pierre, le mur va être encore solide, c'est vrai. Mais si on commence à faire des trous un peu partout, la maison de Dieu va s'effondrer, c'est la même chose. Chaque pierre vivante a une place bien précise. Peut-être que la brique ici est cachée, dit, mais moi je ne sers à rien. Oui, mais elle a une part, parce que dans la résistance mécanique du mur, si chaque pierre était enlevée, le mur s'effondrerait. Peut-être dit, oui, mais il y a les autres pierres qui fonctionnent, ils font la même part. Oui, mais chacun de nous, on a une part bien précise de consolider, d'édification au sein de l'Église de Jésus-Christ. Mais nous devons rester attachés à la pierre angulaire et bâtir la façon avec laquelle Dieu nous demande de bâtir. Jésus est la pierre angulaire, et la Bible dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il est à la fois la pierre angulaire et le fondement, la fondation de son Église. Mais la Bible dit ceci, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Il y a un ciment entre les pierres vivantes, c'est le ciment de l'amour. L'édifice, ce n'est pas simplement un bâtiment, ce n'est pas simplement venir ici, s'asseoir, être observateur dans l'Église. Ce qui nous lie ensemble, c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et par cet amour, les pierres sont liées ensemble, ce sont des pierres vivantes. Est-ce que vous êtes une pierre vivante ? Est-ce que vous voyez ce que Dieu a pour vous comme place dans l'Église ? Est-ce que vraiment vous êtes là où Dieu vous veut parce qu'il désire que vous soyez une pierre vivante ? Vous avez une place dans cette église et Dieu s'attend à ce que vous soyez remplis d'amour et que vous soyez attachés aux autres pierres dans un esprit de consolidation, d'édification mutuelle au sein de son édifice qui est l'église. Et cela est seulement possible par le lien de l'amour qui est la perfection de lien que donne Jésus-Christ. La Bible dit aussi que nous sommes ouvriers avec Dieu pour bâtir et la Bible dit que rapidement que nous serons jugés de la façon avec laquelle nous allons bâtir. Il y a ceux qui seront sauvés comme au travers du feu, mais ceux qui auront bâti avec l'or et les pierres précieuses qui auront des récompenses parce qu'ils auront bâti non pas avec la paille qui va disparaître au feu du jugement de Dieu, mais avec des pierres précieuses. Et la Bible dit aussi, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Moi, je trouve ça extraordinaire. J'ai passé toute ma vie, depuis que je suis croyant, à essayer de comprendre Éphésiens chapitre 4. Et particulièrement le passage où Dieu dit qu'il donne des dons d'hommes. Certes, il donne des pasteurs à l'église, des apôtres, des évangélistes, mais il n'empêche pas moins que tout est lié et a pour centre Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu, le plan de Dieu pour son église, c'est Christ en tout et pour tout. Il est le créateur de l'Église, il est celui qui maintient l'Église, il est celui qui est la fin et le but de l'Église. C'est Jésus qui doit être au sein de notre Église. Et c'est Jésus qui permet non seulement de coordonner l'ensemble, alors l'Église universelle et l'Église locale, mais aussi de mettre ensemble les gens afin qu'ils grandissent. Et l'Église grandit parce que Jésus est le coordinateur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Est-ce que nous sommes des croyants remplis du Saint-Esprit ? La Bible dit que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Non seulement nous sommes des pierres vivantes, mais par nous-mêmes, nous sommes devenus le tabernacle de Dieu, là où Dieu réside, par le Saint-Esprit qui est en nous, le même Esprit qui était là pour la création des cieux et de la terre. Ce même Esprit, Dieu et Jésus-Christ, habite dans le corps du croyant qui est devenu le temple de son Esprit. La Bible dit qu'on ne s'appartient plus à soi-même, de glorifier donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Si je suis une pierre vivante, c'est seulement par la grâce du Seigneur Jésus. Et maintenant, Dieu me demande que ce temple qui est devenu mon corps reflète sa gloire, sa puissance, afin que les gens voient la lumière et qu'on puisse rendre visible ce Dieu invisible parce que nous sommes devenus la lumière du monde et le sel de la terre. Il est intéressant que dans l'Ancien Testament, le tabernacle était revêtu d'or et tout ce qui est dans le tabernacle est le type de Jésus-Christ. Et l'or couvrait tout ce qui devait être couvert, tout le lieu saint notamment. Et le lieu saint, c'est l'endroit où résidait la présence de Dieu, notamment le lieu très saint. Et tout reflétait la divinité de Jésus-Christ. Et j'ai pensé à cela. Est-ce que nous prenons le temps de nous revêtir de l'or ? L'or comme richesse spirituelle dans nos vies. Est-ce que nos vies reflètent la divinité de Jésus-Christ ? Est-ce que nos vies reflètent la présence de Jésus-Christ ? Est-ce que le monde, en voyant les croyants, disent « Ah oui, c'est précieux, ils ont une richesse extraordinaire, nous voulons goûter ce qu'ils goûtent, ils sont riches. » Ah, peut-être on peut être très humble, on peut être même, n'est-ce pas, comme des vases de peu de valeur, mais à l'intérieur, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire, et c'est une profonde richesse. Est-ce que nous nous revêtons du fruit de l'Esprit ? Est-ce que nous sommes remplis du fruit de l'Esprit pour démontrer aux hommes que Jésus-Christ est Dieu et Christ est en nous ? Une autre image ici, c'est la quatrième image, c'est le corps. L'Église dit, enfin l'Écriture dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ici, le temps dans le grec est un temps passé qui a encore des conséquences dans le présent, mais c'est un temps ponctuel dans le sens que c'est une expérience unique que l'on fait et que la Bible appelle le baptême du Saint-Esprit. Nous avons été baptisés dans un seul esprit, c'est le passé. C'est un moment précis dans le temps de notre vie et ça s'appelle la nouvelle naissance. On est baptisé du Saint-Esprit le jour où on est de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit, on est né de nouveau d'eau qui est le symbole de la parole et d'esprit. Après, Dieu nous demande de marcher selon l'esprit, de vivre selon l'esprit et ne pas vivre selon la chair. Mais nous avons été baptisés pour former un seul corps. Le jour de la Pentecôte, c'est ce qui est arrivé. Les hommes ont reçu le Saint-Esprit et ils ont formé un seul corps qui est le début de l'Église, le jour de la Pentecôte qui est le début de l'Église. La Bible dit que nous formons, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. C'est une réalité extraordinaire. Le corps est remarquablement bien fait. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait d'études en médecine, mais tout ce qui étudie la médecine, et particulièrement le corps humain, ou ceux qui sont peut-être biologistes, sont émerveillés de voir la façon avec laquelle Dieu a créé l'homme. Ce n'est pas un hasard si notre cerveau est composé comme il est fait, notre corps et toute cette harmonie qui est dans le corps. Et on le voit d'autant plus lorsqu'on est en mauvaise santé, n'est-ce pas? On réalise combien c'est précieux d'être en bonne santé et avoir toute la capacité que Dieu nous donne. Quand le corps est en bonne santé, alors c'est extraordinaire. Notre corps a une puissance de régénération même et de vie extraordinaire. C'est le corps et les membres ont une fonction bien précise. Mon cerveau ne dit pas à la main droite de faire exactement ce que fait la main gauche. Les yeux sont bien centrés, chacun à sa place et chaque membre du corps est utile. Alors peut-être c'est moins évident dans un édifice d'un bâtiment, mais lorsqu'on parle du corps, si on ampute un membre du corps, eh bien le corps est handicapé et même si on enlève des organes vitaux, il y a mort. Ainsi, chaque membre du corps est précieux devant Dieu. Mais Jésus en est la tête. Jésus est au sein de son Église parce qu'il en est la tête. Nous sommes un troupeau, Jésus est le bon berger, nous sommes une vigne, Jésus est le cep. Nous sommes un édifice, mais Jésus est la pierre angulaire de qui doit tout partir. Nous sommes un corps, mais Jésus en est la tête. Nous avons besoin d'apprendre à nous rester attachés à la tête, et à comprendre que nous sommes membres les uns des autres. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. La Bible dit « nul ne vit pour lui-même ». Cela veut dire qu'ici, dans l'Église, personne ne peut dire « je vis pour moi-même ». Même si, quelque part, retiré, isolé et caché, on pense vivre pour soi-même, c'est faux. Nous sommes tous en train de vivre les uns pour les autres. C'est pour ça que nous sommes dépendants les uns des autres, chose que parfois nous n'aimons pas. Nous n'aimons pas parfois dépendre des autres. Mais la Bible utilise une expression dans le Nouveau Testament, les uns les autres, et nous avons regardé ça un petit peu, vous souvenez, lors du message de Koinonia, exhortez-vous les uns les autres, veillez les uns sur les autres, portez les fardeaux les uns des autres, priez les uns pour les autres, aimez-vous les uns les autres, et ainsi de suite. Il y a énormément d'expressions les uns les autres qui montrent que Dieu prend plaisir à ce que nous nous aimions et à ce que nous ayons une communion mutuelle qui apporte quelque chose de réciproque les uns vis-à-vis des autres. Le Seigneur prend plaisir à ce que nous dépendions les uns des autres. Alors l'un a un don, l'autre a un autre don, et nous n'avons pas tous les mêmes dons, mais nous avons tous des dons qui, ensemble, se complètent pour former un corps. Et nous avons une fonction bien précise, il y a une place dans le corps pour chacun, et une place pour chacun, et chacun a une place. Est-ce que vous connaissez la fonction que Dieu vous a donnée, qu'il veut vous établir dans le corps? Est-ce que vous avez une fonction bien précise? Si vous travaillez, peu importe le domaine où vous travaillez, vous savez, je suppose, le matin, en allant arriver au bureau ou là où vous travaillez, vous devez savoir ce que vous allez faire dans la journée. Vous savez exactement ce que votre agenda vous dit de faire, ou à cause des objectifs, de la mission que vous devez accomplir, ou le patron qui vous dit de faire telle chose. Même les étudiants, quelque part, vous devez avoir un agenda et planifier vos études, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas juste réviser la veille et passer une nuit blanche. Vous devez étudier régulièrement et planifier tout ce que vous devez faire. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il a une fonction bien précise. Vous devez la connaître parce que c'est le plan de Dieu, il en est la tête. Et si vous ne connaissez pas votre place, posez-vous la question. Est-ce que c'est l'Église qui m'empêche d'avoir une place ou est-ce que je ne suis pas assez attaché à la tête qui va me dire quoi faire? C'est vrai que parfois, une Église pourrait empêcher les dons de s'exprimer. Mais vous savez, peut-être que vous allez penser que je vais un peu vite là-dessus, je n'ai jamais vu quelqu'un rempli du Saint-Esprit ne pas être utile dans l'Église de Jésus-Christ. Je n'ai jamais vu quelqu'un portant du fruit, heureux dans le Seigneur, ayant la paix et la joie du Saint-Esprit dans son cœur, ne pas être utile, ne pas avoir une place au sein de l'Église locale. Dieu veut que nous portions du fruit parce qu'il est le cep. Dieu veut que nous ayons une place bien précise parce qu'il est la tête du corps. La Bible dit qu'il est le chef suprême de l'Église, il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous savez, par nature, les êtres humains, nous sommes des rebelles. Oui ? Vous avez l'air grave ce matin. Nous sommes des rebelles, nous sommes des insoumis. Vous avez vu déjà des enfants dire « oui, oui, oui » tout le temps à papa et maman ? Vous avez vu ça, vous, les parents ? Ça n'existe pas, cela. L'insoumission est ancrée dans le cœur de l'homme. La rébellion, la propre volonté, l'orgueil, l'égoïsme. La seule façon d'être utile dans l'Église, c'est d'être attaché à la tête, mais de se soumettre à la tête, qui est Jésus-Christ. C'est lui le bon berger, c'est lui le cep, c'est lui la pierre angulaire, c'est lui la tête du corps. Prenons soin de dépendre de Dieu le Père, de Jésus-Christ qui est la tête du corps, pour être plein de vie. Si on retranche, est-ce qu'il est possible de retrancher un membre de la tête? Je ne pense pas que ça existe, cela. Bon, on fait des opérations à cœur ouvert, on prend le cœur, c'est assez extraordinaire cela, on prend le cœur d'une personne, on le met à côté avec une pompe en attendant de réparer quelque chose, on reprend le cœur, ça c'est assez particulier, mais il ne faut pas détacher trop longtemps le cœur, n'est-ce pas, du corps. Et c'est vrai pour chaque membre. C'est vrai que c'est plus vital pour les parties vitales du corps, mais il n'empêche pas moins qu'on a besoin d'avoir tout l'être, tout le corps et tous ses membres en bonne santé pour que le corps fonctionne. Le corps est parfois malade parce que certains membres nous sont malades. Et c'est vrai que quelque part, étant donné qu'on est des pécheurs, on est tous malades. Mais on a besoin de profiter de la guérison des uns des autres et de prier les uns pour les autres. On a besoin de savoir comment rester attaché à la tête. Et la Bible dit enfin concernant le corps, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Éphésiens 4, 16. Je ne sais pas vous, mais je passerai ma vie à étudier cela. C'est vraiment Jésus qui donne la coordination, qui donne la solidité, qui donne la croissance dans une église. La croissance d'une église est le reflet de notre attachement au Seigneur comme tête du corps. Et la Bible dit, en Colossiens 2, 19, sans s'attacher au corps, au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. La croissance vient de la croissance de chaque individu au sein du corps, dans la mesure où le corps grandit ensemble, où tous les membres grandissent ensemble. D'ailleurs, si on regarde la croissance physique d'un enfant jusqu'à l'âge adulte, normalement, sa croissance est harmonieuse. Il n'y a pas un doigt tout d'un coup ou une main qui grandit 10 fois plus que l'autre main, les pieds, etc. Si vous avez une jambe plus courte que l'autre, vous êtes handicapé. N'est-ce pas ? Vous avez compris ce que je veux dire. Nous avons besoin de trouver une harmonie dans la croissance de l'ensemble de l'Église et seul Dieu peut faire cela. C'est le miracle de la croissance. C'est le miracle de la vie. Enfin, pour terminer, si vous me permettez, j'aimerais terminer. Jésus-Christ est l'époux de l'Église qui est sa fiancée et son épouse. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, disait l'apôtre Paul, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » La Bible dit qu'on est la fiancée de Jésus-Christ, qu'on est son épouse, mais que les noces auront lieu quand ? Dans le ciel un jour, ça s'appelle les noces de l'agneau. Déjà, la Bible dit en Éphésiens 5, 32, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le mari doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église, qui est son épouse. C'est extraordinaire cela, c'est le plan de Dieu. Autant dans l'Ancien Testament, Dieu était le mari d'Israël qui souvent a commis l'adultère, la fornication, l'impudicité, et c'est spirituellement parlant et s'est détourné de Dieu qui était son mari, Dieu le Père mais aussi son mari et qui a été jugé. Mais la Bible dit, et c'est extraordinaire, nous retrouvons cette image plusieurs fois dans l'Apocalypse où il est écrit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Ici, le mot, si ma mémoire est bonne, maquiller, dans le grec, c'est l'idée de se maquiller, de se préparer. L'Église est prête à se marier avec son Sauveur, Jésus-Christ, qui est l'époux. C'est extraordinaire. Et il y a un cri de l'Église aujourd'hui, au travers de la vie de l'Esprit, qui dit ceci en Apocalypse 22, 17. « Et l'Esprit, l'Épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif, vienne, et que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Le cri de l'Église aujourd'hui, et notamment des frères et sœurs persécutés dans le monde, c'est dire, « Seigneur, oui, Seigneur Jésus, viens. Toi qui es notre Époux, viens. Nous avons hâte d'être avec toi, nous avons hâte d'être au ciel. » Et nous aspirons en tant qu'Église au retour du Seigneur Jésus, parce que nous serons dans la gloire avec lui. Et nous avons la paix de Dieu, parce qu'il nous a donné l'assurance de la vie éternelle. Et il nous donne une espérance, un avenir extraordinaire. Quiconque a cette espérance, la Bible dit, se purifie comme lui-même est pur. Et un jour nous serons face à face avec lui. Et il nous invitera à ses noces en tant qu'épouse. Et nous serons revêtus des fins lin, des œuvres justes, des saints. C'est extraordinaire cela. L'avenir de l'Église, c'est Jésus-Christ. La présence et le succès de l'Église, c'est Jésus-Christ. L'avenir de l'Église, c'est Jésus-Christ. Nous sommes liés à Jésus-Christ et nous dépendons de lui. Et c'est lui qui est notre mari en tant qu'Église. Alors, quelles sont les conséquences? Rapidement, je termine avec cela. Les conséquences pratiques de cette image concernant l'épouse, l'Église épouse. Premièrement, la Bible dit que Christ aime l'Église comme sa propre chair. Il la nourrit, la protège, en prend soin comme de son propre corps. Dieu prend soin de nous comme son épouse. Vous savez, il y a des maris qui manquent d'amour et les épouses se plaignent et les épouses souffrent d'un manque d'amour. Mais l'Église de Jésus-Christ ne peut jamais se plaindre du manque d'amour de Christ, parce qu'il prend vraiment soin d'elle. Deuxièmement, l'Église peut donc s'attendre très concrètement au Seigneur pour tous ses besoins spirituels et matériels. Il défend son Église contre ceux qui voudraient l'attaquer dans sa personne, son honneur ou ses biens, sa doctrine. La Bible dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Comme un époux aimant, il exauce les désirs de ceux qui le craignent. En tant qu'Église, donc dans notre relation comme épouse à époux, nous participons à sa puissance et nous partageons ses souffrances. Et nous sommes en train de souffrir en tant qu'épouse par les moqueries, par le rejet, le blasphème de ceux qui rejettent Jésus-Christ, et même nous pouvons être persécutés. De même que l'épouse s'appuie sur son mari, l'Église s'appuie sur Christ. C'est une relation de confiance qui est liée à l'amour. Et la Bible dit que Dieu nous protège. J'aimerais vous dire un verset. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. C'est extraordinaire. Si on avait le temps de regarder l'histoire de l'Église au travers des siècles, comment Jésus a protégé son Église et gardé son Église dans sa fidélité, malgré toutes les déviations, les adultères spirituels que l'Église a faites. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. C'est lui qui a suscité les grands réformateurs pour justement ramener les peuples à la vraie croyance, qui est la croyance dans ce livre-là. Et nous pouvons louer le Seigneur pour sa fidélité, parce que Dieu est fidèle dans ce qu'il veut bâtir. L'Église est soumise à Christ, elle est l'épouse, elle souffre parfois les douleurs d'enfantement, mais c'est notre raison d'être. Alors, nous avons vu ensemble un troupeau dont Jésus est le berger, une vigne dont Jésus est le cep, un édifice dont Jésus est la pierre angulaire, le corps dont Jésus est la tête, l'épouse dont Jésus est l'époux. Alors, notre défi, c'est laisser vivre Christ en nous et être au centre de l'Église, le laisser vraiment être le berger, le vrai cep, la pierre angulaire, la tête et l'époux. Ce serait merveilleux si chacun de nous, nous puissions vivre ainsi, et c'est ce que Dieu nous demande, et c'est ce que Dieu demande pour chaque Église. C'est le plan de Dieu, c'est le programme de Dieu pour chacun de ces Églises locales, et l'Église universelle a pour centre Jésus-Christ. Notre Église, ici, notre Église, vous et moi, nous porterons du fruit dans la mesure où nous restons attachés, chacun de nous, au Seigneur, comme berger, comme cep, comme pierre angulaire, comme chef et époux. L'avenir de notre Église dépend de notre attachement au Seigneur Jésus. Récemment, j'ai eu un téléphone d'une sœur en Christ. J'ai eu la joie de la baptiser. C'était mon premier baptême en tant que pasteur à Québec. Notre église a grandi jusqu'à 200 personnes. Ils ont fondé une autre église avec 50 membres. Et déjà, le bâtiment est payé, autant l'église originale. Mais j'ai eu une tristesse énorme d'apprendre que l'église dont j'étais le pasteur pendant des années s'est divisée en deux. Alors je pense que c'est une histoire un peu comme Paul et Barnabas. L'un pensait une chose, l'autre pensait une autre chose. Et finalement, le jeune pasteur avait voulu changer des choses. Et puis certains l'ont suivi, d'autres pas. Et finalement, il y a eu fraction. Après friction, il y a eu fraction, séparation. Maintenant, ils fondent une autre église. Bon, Dieu peut multiplier les églises, mais ce n'est pas toujours la bonne façon de planter une autre église. Mais vous savez, la fragilité d'une église est là. Et si Dieu ne nous garde pas unis ensemble, s'il n'est pas le bon berger, s'il n'est pas la pierre angulaire, s'il n'est pas le chef, s'il n'est pas la tête du corps, s'il n'est pas l'épouse, si nous perdons de la vision que Jésus doit toujours le centre, ça pourrait nous arriver aussi. Parce que Jésus veut garder son corps uni, veut garder son troupeau uni, veut garder ses enfants bénis ensemble. Et j'espère que notre Église vivra ce que l'apôtre Paul disait en Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. » À lui seul soit la gloire. Le Seigneur Jésus mérite tout honneur et toute gloire, car lui seul bâtit son Église. Prions, s'il vous plaît. Notre Père Céleste, merci de nous avoir rappelé ces images de l'Église dans le Nouveau Testament. Merci d'être le bon berger, d'être la tête du corps, d'être le vrai cèpe, la pierre angulaire. Merci d'être notre époux. Et quel privilège nous avons, Seigneur. De quoi pourrions-nous plaindre, toi qui as donné ta vie pour nous? Aussi, nous nous inclinons devant toi pour reconnaître, Seigneur, ta souveraineté, ton omnipotence, ton omniprésence, ton omniscience dans nos vies. Et en tant qu'Église, nous nous humilions devant toi afin que tu nous gardes ensemble, unis à ta gloire, pour te servir, croître et porter du fruit qui demeure en toute harmonie, coordonnée par la puissance de Dieu et de Jésus-Christ. Nous te donnons toute la gloire ce matin, Seigneur, et nous plaidons que nos vies grandissent en toi, que notre Église grandisse en toi. Nous plaidons que ton Église en France grandisse et porte du fruit. Nous prions pour que de nouvelles implantations d'Église se fassent et que ta gloire éclate, Seigneur, et qu'un grand homme se tourne vers toi ici en France et dans le monde entier. Car Jésus, tu mérites, en tant que Sauveur et Seigneur, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.